Bonjour mes frères et mes sœurs. Connaissez-vous vos sentiments, vos humeurs, les raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites? Est-ce que vous vous fâchez facilement? Est-ce que vous aimez tout le monde? Si c'est le cas, comment les aimez-vous? Est-ce que vous êtes de bonne humeur la plupart du temps? Sinon, pourquoi pas? La plupart du temps, nous tous, nous avons des soucis, nous demandons pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent. Et d'une façon générale, nous oublions la raison pour laquelle nous sommes nés. En fait, la plupart des gens naissent et meurent sans jamais connaître la raison de leur existence. Dans ce cas-là, pourquoi s'est-on ainsi? Ils mènent une vie presque sans but. Mais le sermon de ce matin, c'est la continuation du sermon que j'ai fait la dernière fois, où je vous ai posé des questions sur vous-même. Je vous ai demandé, vous connaissez-vous? Qui êtes-vous, en réalité? Qu'est-ce qu'un être humain? Quelle place occupons-nous dans ce vaste univers? Et pourquoi sommes-nous nés? Pourquoi existons-nous? Qu'est-ce qui se passe après la mort? La réponse à toutes ces questions se trouve dans la Bible. Mais il faut lire la Bible, il faut étudier la Bible, il faut chercher dans la Bible, non pas ce que nous voulons trouver, mais ce que Dieu nous montre dans la Bible, en effet, le but de l'existence et ce qui attend de chacun de nous. La dernière fois, je vous ai posé des questions en disant, que cherchez-vous dans la vie? Une famille? La richesse? Un bon emploi? Tout ça, c'est bien, mais que cherchez-vous premièrement dans votre vie? Et je vous ai montré que le Christ a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voilà la base. Avant de commencer à vous connaître, vous devez savoir ce que vous cherchez. Donc vous cherchez le royaume et la justice de Dieu. Et je vous ai expliqué ce que c'est que le royaume. Comment pouvez-vous chercher le royaume si vous ne savez pas ce que c'est? Ensuite, l'apôtre Pierre a dit, toujours son inspiration divine, croissez dans la grâce et la connaissance. Mais qu'est-ce que c'est que la grâce? Et qu'est-ce que c'est que la connaissance? Eh bien, nous parlons toujours de la même base. La grâce nous vient de Dieu. La connaissance nous vient de la Bible. Nous tous, nous devons donc chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Ça, c'est le commencement de nos recherches. Le but de ce sermon, je répète, c'est de s'examiner soi-même. Chaque jour, nous devons nous examiner nous-mêmes pour voir où nous en sommes. Si nous ne progressons pas, nous végétons. Végéter n'est pas pour les êtres humains. Ce sont les plantes qui végètent. La végétation végète. Mais nous autres humains, nous devons aller de l'avant, nous devons croître, nous devons avancer. Et pour avancer, et pour croître, et pour arriver au but, je répète, le Christ a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je vous ai montré quelques exemples. Je vous ai dit que j'avais des questions à vous poser et j'ai commencé lors de votre examen de vous-même. J'ai dit, est-ce que vous vous soumettez aux autorités? Est-ce que vous vous soumettez à l'autorité là où vous êtes, en famille? Et car dans une famille, il y a des lois à respecter de la part de chaque membre de la famille. Ensuite, je vous ai posé la question, est-ce que vous vous soumettez à l'autorité au travail? Car même au travail, il y a quelqu'un au-dessus de vous. Ou bien vous êtes patron vous-même, mais dans ce cas-là, vous soumettez-vous toujours à ceux qui sont au-dessus de vous, ou bien respectez-vous ceux qui sont au-dessous de vous. De toute façon, il y a toujours une autorité. Ou alors, dans le gouvernement, vous soumettez-vous aux lois locales? Si vous ne respectez pas les lois ou les règles du gouvernement dans votre pays, comment pouvez-vous respecter les lois que vous ne voyez pas et qui sont mentionnées dans la Bible? Donc, nous avons parlé la dernière fois de l'autorité. Lorsque vous vous examinez vous-même, posez-vous la question chaque jour, vraiment, est-ce que je me suis soumis à l'autorité aujourd'hui de la bonne façon? La façon dont Dieu s'attend que je me soumette à l'autorité. Ensuite, après l'exemple que je vous ai donné, Maintenant, je passe dessus. La deuxième question que je vous ai posée, c'est qu'est-ce que c'est que la justice divine? Si le Christ nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, mais qu'est-ce que c'est que la justice? Et nous avons parlé de la justice. C'est la justice divine. La justice qui cherche avant tout la volonté de Dieu. La justice qui veut faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. La justice qui nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. La justice même qui consiste à mettre Dieu avant toute personne, avant toute chose, en ce bon monde. Je savais la dernière fois, lorsque j'ai parlé de ce sujet, que je ne le finirais pas. J'avais en vue sept façons de s'examiner soi-même. Et sur les sept façons, je n'ai couvert que les deux. Se soumettre à l'autorité, d'abord, lors de cet examen de soi, et ensuite, savoir si nous cherchons la justice divine. Je pense que j'ai à peu près couvert ces deux sujets. Et maintenant, continuons avec les cinq autres examens de soi. Et en tant que troisième examen de soi, je vous poserai une question tout à fait banale, si vous voulez, mais tout aussi simple. Dans cet examen de soi, d'abord, savez-vous ce que c'est que la chose la plus difficile dans votre vie? Quel est votre plus grand problème dans ce bon monde? Oh, je sais que vous direz, je suis malade, je ne me sens pas bien. Non, non, je ne parle pas de cela. Je parle, quel est votre plus grand problème en ce bon monde chaque jour? Jour et nuit. Eh bien, le contrôle de votre langue. Et c'est ça. Alors, en tant que troisième examen de soi, je vous dirais, chaque jour, est-ce que vous faites des efforts pour contrôler votre langue? C'est la chose la plus difficile, vous savez, parce que chaque fois que vous ouvrez votre bouche, voilà que des paroles sortent. Si ces paroles blessent les autres, ou bien si ces paroles bénissent les autres, eh bien, vous avez déjà établi une base. Par vos paroles, vous vous faites des amis. Par vos paroles, vous faites des ennemis. Par vos paroles, vous brisez des unions. Par vos paroles, je dirais même, vous devenez meurtrier. Voilà pourquoi je vous pose la question. Est-ce que lorsque vous vous examinez vous-même, et nous devons faire ça chaque jour, contrôlez-vous vos paroles, vous demandez-vous pourquoi ai-je dit ceci ou cela? Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est qu'avant même de dire quelque chose, réfléchissez. Ne soyez pas prompt à parler. Certes, nous avons tous des idées, les idées nous viennent facilement, mais avant d'exprimer vos idées, arrêtez-vous et dites, ce que j'ai dans ma tête, est-ce que vraiment ça vaut la peine de parler, de le dire? La plupart du temps, il vaut mieux se taire que de parler. La plupart du temps, il vaut mieux écouter que de parler. En fait, selon la Bible, si vous vous taisez, on vous prend pour un sage. C'est dans les Proverbes. Alors, comment est-ce qu'on peut vraiment contrôler la langue? L'apôtre Jacques, je viendrai à ceci dans quelques instants, nous montre des difficultés de contrôler notre langue. Mais avant de contrôler notre langue, voyons ce que Dieu dit en ce qui concerne le contrôle des langues dans les 10 commandements. Car Dieu nous donne des précisions exactes en ce qui concerne le contrôle des langues, même dans les 10 commandements. Eh oui, les 10 commandements nous disent comment vivre pour plaire à Dieu. Et vous savez que, en fait, dans les 10 commandements, il y a 6, les 6 derniers, qui font partie en ce que nous appelons les relations des hommes entre eux-mêmes. Dans ces relations entre humains, l'un des commandements dit, tu ne tueras pas. Ça, nous savons. Tu ne commettras pas d'adultère. Ça, nous savons. Ce sont des rapports humains. Ensuite, nous savons aussi, et nous avons entendu, tu ne mentiras pas. Non? Non? Ce n'est pas l'un des 10 commandements. Mais vous direz, mais vous tordez la Bible, mais pas du tout. La Bible ne dit pas, tu ne mentira pas. Notez-le. Cette, l'idée est là. Mais avant d'entrer dans cette idée, Dieu présente ce commandement d'une autre façon. Il dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Exode, chapitre 20, verset 16. Regardez-moi ça. Certes, ça couvre le mensonge. Mais lorsque nous parlons de mensonge, nous limitons ce commandement. Ne pas porter de faux témoignages couvre beaucoup plus que ne pas mentir. Chaque fois que vous ouvrez votre bouche et que vous parlez, soyez sûr que vous ne portez pas de faux témoignages contre votre prochain. Ça fait une différence, une grande différence. Je répète, le sujet est tellement vaste. Comme je vous ai dit la dernière fois, je couvrirai seulement chaque, phrase que je prends ici, chaque condition que je prends. Seulement, je couvrirai le sujet d'une façon globale. Ensuite, vous n'avez qu'à faire des recherches vous-même. Nous avons vu, je répète, ce que c'est que l'autorité, la soumission à l'autorité. Nous avons vu ce que c'est que chercher de la justice. Et maintenant, comment faire, que faire pour contrôler votre langue? Eh bien, je vous ai dit, et je répète, dans les proverbes surtout, nous avons beaucoup de conseils. L'un des conseils, c'est de ne pas trop parler. C'est de maîtriser votre langue. C'est de ne pas vraiment vous laisser aller à tous vos sentiments et les étaler devant tout le monde. Prenez l'exemple du Christ. Le Christ a été persécuté lorsqu'il était sur cette terre. On a dit toutes sortes de mensonges sur le Christ. On a blasphémé, on l'a blâmé, toutes sortes de faux témoignages. Voilà votre faux témoignage. Les raisons pour lesquelles le Christ a été arrêté, c'était à cause de faux témoignages. Ce commandement que je viens de citer dans Exode. Et les gens même, au tribunal, ne trouvaient rien de vrai, de valable dans ces faux témoignages. C'est à cause de ces faux témoignages que le Christ a été crucifié. Bon, mais laissez-moi vous citer ici un exemple dans sa vie, car ça vous donne une idée de ce que c'est que de savoir se taire, de ne pas parler. Le Christ était sujet à toutes sortes de blasphèmes, je dirais, au blâme, et les gens lui posaient toutes sortes de questions, et les réponses qu'il donnait, les gens tordaient ses réponses. Et chaque fois, presque chaque fois que les gens lui posaient une question, c'était pour le piéger. Non pas pour comprendre la vérité, mais pour chercher des raisons pour accuser le Christ. Alors, si vous étiez à sa place, comment réagiriez-vous? Que feriez-vous? Comment répondriez-vous aux questions? Dans Matthieu chapitre 27, nous avons un exemple frappant ici, car, je répète, vous n'avez qu'à lire le reste. Chaque fois qu'on interrogeait le Christ, ce n'est pas pour apprendre quelque chose, à connaître la vérité, mais pour trouver une raison pour accuser le Christ. Alors, je prends maintenant au milieu d'une idée. Matthieu 27, verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. C'était maintenant au moment de l'arrestation et la crucifixion. Le gouverneur l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Écoutez, déjà la question est stupide. Le gouverneur connaissait la réponse, mais il avait entendu que le Christ avait dit qu'il était le roi des Juifs. Alors maintenant, voilà qu'il va encore lui-même trouver une raison pour l'accuser. À cette question stupide, le Christ répond, « Tu le dis. » Voyez-vous, la façon dont il a parlé, il lui renvoie la balle, pour ainsi dire, il dit, « Tu le dis. » Ensuite, mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs. Il s'est tu, il ne voulait pas aller. Il savait que ces gens-là avaient d'autres motifs, d'autres raisons, donc il n'est pas allé plus loin. Alors Pilate lui dit, verset 13, « N'entends-tu pas de combien de choses on t'accuse ?» Alors, quelle a été la réponse de Christ? Vous savez, vous pouvez voir tout le mensonge contre vous. Et Jésus ne lui donna pas de réponse sur aucune parole. Voilà. Ailleurs, il a parlé. Ailleurs, il a expliqué. Lorsque le moment venait, il parlait, il expliquait. Tout dépend de l'attitude des gens. Mais après quelque temps, vous savez, vous savez que assez, c'est assez. Ici, le Christ savait que ce gouverneur devait savoir ce qu'il disait. Alors, il n'a pu donner de réponse. Voilà un conseil formidable. Souvent dans votre vie, il vaut mieux ne pas répondre, plutôt que de mentir, ou plutôt que de dire des choses qui ne seraient pas bon à dire ni à entendre. Vous savez ce qui se passe souvent? Vous entendez une rumeur ou bien un bruit, vous le répandez. Non, ne répétez pas les choses que vous avez entendues, à moins d'en avoir une certitude absolue. Oui, absolue. Parce que souvent, je répète, nous répétons les choses que nous entendons, ce faisant, nous faisons du tort aux autres, et bon nombre de fois, ou bien la plupart du temps, je dirais, ce que nous disons, ce n'est pas vrai parce que nous avons seulement entendu. Ce sont des suppositions. Et vous perdez votre temps. Ce faisant, vous blessez votre prochain. Et si c'est le cas, dans ce cas, vous faites du tort. Dans 1 Timothée, chapitre 5, l'apôtre Paul couvre ce sujet d'une façon un peu différente. Parce que là encore, je répète, si vous êtes vraiment occupé, vous n'avez pas le temps de bavarder. Vous n'avez pas le temps de passer votre temps à des choses qui ne valent pas la peine d'être discutées, mettons. Mais si vous n'avez pas grand-chose à faire, si, ici l'apôtre Paul prend l'exemple des veuves, mais ce n'est pas des veuves qu'il parle seulement. Il prend l'exemple des veuves parce que les veuves, d'une façon générale, sont seules et n'ont pas beaucoup d'occupation, donc elle passe le temps à parler, je dirais à bavarder. Voilà pourquoi l'apôtre Paul ici nous donne leur exemple, mais cet exemple doit nous servir dans notre vie à nous-mêmes, qui que nous soyons, afin que nous ne nous répétions pas les mêmes fautes, les mêmes choses que des personnes qui, je dirais, ont beaucoup de temps, entre guillemets, à gaspiller. Alors, 1 Timothée chapitre 5, verset 13. Prenons verset 12 peut-être. Il dit, nous vous prions. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12. Nous vous prions, frères, dit-il, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres, etc. C'est pas exactement ça que je cherche, mais je vais. Prenons 2 Timothée, ça sera peut-être plus facile. 2 Timothée, chapitre 2. C'est le même sujet, mais je pense que j'ai pris un verset là qui est la suite de ce que je voulais vous dire. 2 Timothée, chapitre 23, chapitre 2, verset 23. Il dit, repousse les discussions folles, inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, dit-il, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ou du Seigneur ait des querelles. La plupart du temps, je répète, ces querelles commencent lorsque nous ne faisons pas attention, lorsque nous avons beaucoup de temps à gaspiller, pour ainsi dire. Ah oui, prenons 1 Timothée chapitre 5. C'est ça que je cherchais. 1 Timothée chapitre 5. Ici, on parle des veuves, mais ça peut être votre cas, ça peut être mon cas. C'est seulement les veuves parce que, je répète, d'une façon générale, elles ne travaillent pas à l'extérieur. Alors, Paul écrit 1 Timothée chapitre 5, verset 13. Avec cela, dit-il, étant oisive, voilà le danger. Ne soyez pas oisive. Passez votre temps à faire quelque chose d'utile. Autrement dit, si vous n'avez rien à faire, si somnolait pour ainsi dire. Et si votre esprit vagabonde, dans ce cas-là, vous êtes en difficulté. Ne soyez pas paresseux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, avec cela étant oisives, elles apprennent à aller de maison à maison. Non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses, intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Comprenez-vous? Voilà le danger. Ne soyez pas oisifs, ne soyez pas paresseux. Occupez votre esprit à faire ce qui est juste, à penser à des choses qui vaillent la peine d'être pensées. N'accusez personne. Dans Jacques chapitre 3, c'est ici même le sens de ce commandement, du neuvième commandement, où Dieu dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Regardez voir comment ce commandement est décrit dans Jean, dans Jacques, chapitre 3. Il est difficile, je répète, il est très difficile, parce que Jacques nous montre les difficultés. Il montre ici comment on peut tous tout contrôler, mais on ne peut pas contrôler la langue. Par exemple, il dit, verset Jacques, chapitre 3, verset 4, il dit, les navires qui sont, dit-il, si grands et que poussent des vents impétués sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, dit-il, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. La langue, verset 6, aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nous, dit-il, nos membres, souillant tout le corps. Quelle voir ça. Voilà quel est le reste. Voilà les difficultés que nous avons pour contrôler cette langue. La meilleure façon, mes frères et mes sœurs, je répète, gardez le silence. Ne répétez pas un bruit que vous avez entendu, ce n'est pas la peine. Ce qui n'est pas bon à entendre ou à dire, ne le dites pas. Lorsque vous parlez, que ce soit des choses qui plaisent aux autres et qui soient la vérité et qui font honneur à votre religion. Dans Jude, puisque nous sommes tout près de Jacques, etc., Pierre, Jude, regardez voir un exemple frappant. C'est toujours question d'autorité en même temps. Dans Jude, nous avons question ici de Moïse et nous avons des anges. Et ici, nous avons donc l'attitude que nous devons avoir et aussi la question de respecter l'autorité ou bien même de craindre l'autorité. Je vous ai parlé par le passé en ce qui concerne Satan, le diable. Satan n'était pas au commencement l'adversaire. Satan était un archange. Satan, donc, était un archange très haut placé, comme la Bible décrit dans Ézéchiel, dans Ésaïe, un être créé par Dieu, très haut placé. Mais Satan, il est devenu Satan, cet archange, parce que il s'est laissé dominer par la vanité. Ensuite, dès ce moment-là, lorsque l'humanité a été créée, Satan a commencé à séduire les gens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est notre attitude à l'égard de Satan? Comment devons-nous le traiter? Comment devons-nous parler? Jude, verset 8. Malgré cela, ces hommes, dit-il, sont entraînés par leur rêverie, en un peu plus loin. Verset 9. Or, l'archange Michel, voilà un autre archange, lorsqu'il contestait avec le diable, Satan, et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas parler contre lui un jugement. Regardez-moi ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait être sûr, n'est-ce pas, qu'il obéit aux ordres divins. Dieu prendra soin. Donc, il n'osa pas parler parce qu'archange, même Satan devenu Satan, était en poste, n'osa pas parler contre lui. Et lui disputait donc le corps de Moïse. Il n'osa pas porter contre lui un jugement, injurieux. Voyez-vous ça, injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Voilà quelque chose à vous rappeler. Si vous voulez, par exemple, médire quelqu'un que vous ne devriez pas, laissez Dieu prendre soin. Vos ennemis qui vous attaquent, qui vous blessent, eh bien, vous ne pouvez pas souhaiter qu'ils meurent, car le Christ a dit, il faut aimer tout le monde. Donc, vous direz que le Seigneur te réprime, que Dieu en prenne soin. Voilà la façon de vous venger de vos ennemis, mettons. Là encore, vous n'avez pas besoin de dire quelque chose qui ne serait pas juste, qui ne serait pas bon. Voilà ce que c'est que ce commandement, le 9e commandement, qui dit, tu ne porteras pas de faux témoignage contre toi-même, contre ton prochain. Proverbe chapitre 10. Je répète, chacun de ces sujets demande tout un sermon. Je donne seulement un résumé de la situation. Proverbe chapitre 10. Verset 19. Encore, ce sont des bons conseils. Dans les proverbes, vous avez beaucoup de conseils qui nous sont donnés en ce qui concerne la langue et comment maîtriser la langue. Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Oui, intéressant. Nous devons éviter de pécher. Donc, parlez moins. Lorsque vous parlez, dites des choses qui valent la peine d'être dites. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Proverbe 10, verset 19. Bon, continuons. Donc, nous avons vu l'autorité. Nous avons vu chercher la justice. Nous avons vu brièvement comment tenir sa langue. Et maintenant, quatrièmement, le Christ nous a dit d'être une lumière. Bon. Alors, dans votre examen de vous-même, demandez-vous, honnêtement, suis-je une lumière aux autres? Est-ce que les autres qui sont autour de moi sont inspirés par ce que je dis? Par ma façon de vivre? Par ma façon de me comporter? Par ma façon de les aimer? De les aider même? Matthieu chapitre 5, verset 13. Matthieu 5, 13. Le Christ a dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel, je le répète, apporte de la saveur. Est-ce que vous apportez de la saveur là où vous êtes? Est-ce que les gens apprécient votre présence? Peut-être, c'est le cas, mais lorsque vous ouvrez la bouche et vous commencez à dire ce que vous croyez en ce qui concerne votre religion, les gens se détourneront de vous. Alors, la question que je vous pose est un peu plus délicate. Pouvez-vous dire que lorsque vous parlez en ce qui concerne votre religion, vous êtes une lumière. Que les gens vous respectent, et aussi que les gens sachent que votre bonne attitude quand même doit montrer ce que c'est que votre religion. Souvent, par votre attitude, vous pouvez attirer les gens vers Dieu. Voilà pourquoi je répète, êtes-vous une lumière? Est-ce que vous présentez vraiment votre religion par votre façon de vivre ou bien par vos paroles? Le Christ a dit, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Est-ce le cas? Est-ce le cas d'être le sel de la terre, la lumière du monde? Ensuite, il dit, une lumière doit être exposée afin que les gens voient. Et pourquoi les gens devraient-ils voir? Voilà le verset 16. Pour que les gens glorifient Dieu et non pas vous. Intéressant. Car par votre attitude, que les gens peuvent glorifier Dieu. Donc, vous représentez votre religion par la lumière que vous êtes, par le sel que vous êtes. Si, dans votre examen de vous-même, vous n'êtes pas une lumière et que vous n'avez pas vraiment représenté votre religion, à quoi sert votre religion? Si les gens vous repoussent à cause de votre religion, je comprends. Mais les gens doivent respecter votre conduite qui est fondée justement, qui est basée sur votre religion. Parce que vous respectez les 10 commandements. Dans Romains chapitre 12, l'apôtre Paul nous dit comment vraiment être une lumière, comment vraiment être plaisant, non pas nécessairement par ce que vous dites, mais, savez-vous, le Christ a dit, il faut tourner l'autre joue. C'est ce principe. Si vous faites votre part, vous serez toujours béni. La vie ne sera pas toujours facile, non, mais quand même vous serez béni, à la longue. Romains chapitre 12, verset 9. Que la charité, le mot ici c'est l'amour, que la charité soit sans hypocrisie. Voilà. Si vous êtes hypocrite, vous ne pouvez pas être lumière. Ayez le mal en horreur. Voilà comment être une lumière. Attachez-vous fortement au bien. Voilà comment être le sel de la terre. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Voilà comment on peut être lumière. C'est pas marqué seulement pour les membres de l'Église, mais les uns pour les autres de la bonne façon. On n'a pas besoin de mentir, mais on doit exprimer nos sentiments de la bonne façon, comme le Christ l'a fait. Usez de prévenance, verset 11, ayez du zèle et non de la paresse. Voilà la clé. Si vous êtes paresseux, vous êtes oisif, et comme j'ai dit, vous commencez à avoir des choses, des idées qui ne seraient pas justes. Non, ayez l'esprit toujours occupé. Mais ne soyez pas paresseux. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. L'espérance de la vie. La vie éternelle. Soyez dans la prière. Je parlerai de cela dans quelques minutes. La prière est indispensable dans votre vie. Alors, mes frères et mes sœurs, je répète. Dans votre examen de vous-même, chaque soir, chaque jour, pouvez-vous dire aujourd'hui, j'ai été une lumière? Pouvez-vous dire aujourd'hui, j'ai représenté ma religion de la bonne façon? Vous pouvez dire que Dieu a été content de moi, de la façon dont j'ai vécu. Je n'ai pas rendu le mal pour le mal, mais le bien pour le mal. Ce faisant, vous êtes une lumière. Ce faisant, vous êtes le sel de la terre. Continuons. Verset, condition 5. Lors de vos examens, en tant que cinquième examen, je dirais, est-ce que dans votre vie, dans la journée, dans chaque jour, lorsque vous vous examinez vous-même, avez-vous respecté ou respectez-vous les priorités? Respecter une priorité ne signifie pas laisser tomber ce qui est secondaire. Pas du tout. Respecter une priorité signifie faire ce qui est premièrement nécessaire sans pour autant abandonner ce qui vient après. Autrement dit, il faut faire ce que vous devez faire, mais dans l'ordre de la priorité. Je vous ai dit il y a quelques instants, je vous ai parlé de la prière. La prière est indispensable dans votre vie. C'est une priorité indispensable pour croître dans la grâce et la connaissance divine. Alors je vous pose la question, est-ce que vous négligez de prier chaque jour? Si c'est le cas, vous ne pouvez pas vraiment être lumière, vous ne pouvez pas vraiment chercher le royaume et la justice de Dieu. Et alors un peu plus loin, lorsque vous vous trouvez dans une situation, est-ce que vous vous posez la question, quelle est la priorité des choses? Supposons que vous soyez malade. Là encore, c'est un grand sujet. Mais quelle est la première chose que vous faites? En tant que chrétien, vous devez d'abord vous tourner vers Dieu. Et non pas que Dieu vienne en dernier lieu. Eh oui, priez Dieu, adressez-vous à Dieu. Souvent, nous manquons de foi parce que nous pensons que quelqu'un d'autre peut nous aider davantage plus que Dieu. Mais non, Dieu est le seul qui nous guérit. Dieu est le seul qui vient toujours à notre aide. Je ne dis pas de négliger le reste, mais d'abord Dieu, ensuite le reste. Une fois que vous comprenez ce principe et que vous respectez la priorité des choses, vous verrez que votre vie changera. Le matin, lorsque vous vous levez, quelles sont vos pensées? Ce sont les préoccupations de la journée, et dans ce cas-là, vous ne respectez pas les priorités. Donc, lorsque vous vous examinez, dites-vous chaque jour, chaque soir, est-ce que aujourd'hui j'ai fait ce qui est important en premier lieu? vous serez surpris. Il est très possible que la réponse serait non. Que vous cherchez d'abord ce qui vous intéresse, humainement parlant, parce que nous sommes tous égoïstes. Et ce faisant, vous renversez les cartes. Ce faisant, donc, vous ne respectez pas les priorités. Et vous payez les conséquences. Dans Luc chapitre 10, un exemple frappant de priorité, je vous dis, la Bible nous donne toujours des exemples pour nous à comprendre, à pratiquer, à mettre en pratique, et vraiment et qui nous montre en même temps les résultats. Ici, nous avons l'histoire de deux sœurs que le Christ aimait, Marthe et Marie. Le Christ a ressuscité à la vie physique leur frère Lazare. Alors, regardez-moi ici, question de priorité. Ces deux sœurs étaient, entre guillemets, chrétiennes. Ces deux sœurs aimaient le Christ. Ces deux sœurs honoraient le Christ. Ces deux sœurs voulaient observer les commandements de Dieu, et je pense qu'elles observaient aussi. Donc, elles avaient la bonne attitude. Mais regardez-moi, question de priorité. Luc, chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Marthe et Marie étaient ensemble. Elle avait une sœur, Marie, qui s'était assise au pied de Jésus et écoutait sa parole. Alors, ici vous pouvez voir Marie qui avait la priorité d'écouter la parole du Christ. Et Marthe, qui... Elle voulait aussi écouter peut-être, mais Marc s'était occupé à d'autres choses. Marthe occupée à divers soins de la maison, domestique. C'était nécessaire. C'était pour recevoir le Christ, donc elle voulait honorer le Christ. Elle s'occupait des soins domestiques. C'était important, il fallait le faire. Et voyez-vous, Marthe se pose la question. Ensuite, elle s'adresse au Christ. « Seigneur, dit-elle, verset 40, Luc, chapitre 10, verset 40, « Seigneur, dit-elle, fais quelque chose, que ça ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. » Il y avait beaucoup à faire. Il y avait des gens dans la maison. Quelle a été la question, la réponse du Christ? Il a dit, « Marthe, tu t'inquiètes, dit-il, de peu de choses. » Une chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part. Autrement dit, à ce moment-là, il fallait que Marthe fasse ce que Marie a fait. Que, à ce moment-là, la présence du Christ était beaucoup plus importante pour les deux sœurs que de servir le Christ. Et certes, au moment voulu, les deux, peut-être, se mettraient ensemble et serviraient le Christ. C'est un très bon exemple. Ça nous montre, voyez-vous, comment vraiment nous approcher du Christ et faire les choses qui sont les plus importantes en premier lieu. Matthieu 23. Ici, nous avons, j'appelle ça le chapitre des hypocrites, les pharisiens qui n'avaient pas l'ordre des choses, qui ne respectaient pas la priorité, entre autres choses. Les pharisiens prétendaient faire quelque chose ou dire quelque chose, alors qu'ils étaient des hypocrites. Et le Christ, je pense à un verset ici, dans Matthieu 23, verset 23, prend un exemple. Il dit l'exemple de Dîme. Il dit « hypocrite », dit-il aux pharisiens. Matthieu 23, 23, vous payez de la dîme sur les choses physiques, qui est juste, et dit-il, vous abandonnez ce qui est encore le plus important. Verset 23, je répète, la justice, la miséricorde, la foi, la fidélité. Et le Christ ajoute, c'est là, verset 3, 23, c'est là ce que vous devriez faire sans négliger les autres. C'est là où la plupart du temps, les gens manquent de faire leur devoir, sans négliger les autres. Donc, dans votre liste de priorités, vous ne négligez pas ce qui est en deuxième lieu. Mais voilà ce qui est important d'abord, mais vous ne négligez pas. Je parlais il y a quelques instants de la prière. Écoutez, que la prière soit la première chose qui vient dans votre vie lorsque vous avez besoin de quelque chose. La prière n'est pas seulement demander quelque chose à Dieu. La prière, c'est de reconnaître la présence de Dieu. La prière, c'est de dire merci Dieu. La prière, c'est être reconnaissant. Certes, vous devez demander ce dont vous avez besoin, toujours pour servir les autres, toujours pour être un meilleur chrétien. Lorsque vous avez besoin d'une grande décision, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher conseil auprès des amis? Pas de problème. Ou bien auprès de vos ennemis? Pas de problème. Cherchez conseil auprès d'autres personnes. Si vous savez à qui vous adressez, pas de problème. Mais la première chose que vous devriez faire, c'est de vous adresser à Dieu. C'est de chercher conseil auprès de Dieu. Voilà pourquoi, quelle que soit la situation, quel que soit le cas, si vous cherchez conseil, adressez-vous à Dieu par la prière. Mettez-vous à genoux. Demandez-lui, écoute Dieu, voilà une grande décision. Dois-je faire ceci ou cela? Vous savez, il est triste à dire, mais prenez l'exemple d'un jeune. Et j'ai eu dans ma vie des cas pareils. Des jeunes qui s'aiment sincèrement, qui se marient, sans chercher conseil auprès de quelqu'un qui peut les aider. Ils sont épris par l'amour, bon. Ils ne prennent même pas le temps de prier, de demander à Dieu la sagesse. Ou bien demander à leur façon. Je sais, j'ai eu dans ma vie des cas en tant que ministre où j'ai vu le couple, je dis non, ce n'est pas la bonne chose à faire pour vous. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre comme vous êtes. Et ils n'ont pas écouté. Après, c'était une vie difficile dans le mariage. Donc, si vous avez une grande décision, c'est bon de chercher conseil auprès de quelqu'un qui peut vous donner conseil, mais d'abord, adressez-vous à Dieu. Le Christ, sur cette terre, s'est toujours adressé à Dieu en toutes circonstances, toujours donnant priorité à Dieu. Notez-le. Matthieu chapitre 6. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Verset 12. Oui, d'accord. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait choisir ses disciples, ceux qui seraient des apôtres. C'était important. Voyez-vous, les 12 apôtres qu'il a eus, il fallait vraiment faire un choix. Il a passé toute la nuit, le Christ a prié Dieu afin d'avoir la sagesse pour prendre la bonne décision. Notez-le. Il passa toute la nuit, verset 12, à prier. Et quand le jour arriva, suite à sa prière, il appela ses disciples, il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtre. Les 12 apôtres que le Christ avait n'étaient pas choisis juste pour un oui-dire, juste par accident. C'était la suite, le résultat de toute une nuit de prière. Comment ça vous a comprendre? Matthieu 14. Donc si le Christ a fait ça lorsqu'il était sur cette terre, à combien plus forte raison ne devrions-nous pas nous faire la même chose? Matthieu 14, un autre exemple du Christ lorsqu'il priait avant de prendre une décision, verset 21. Il était avec les disciples, il a nourri les disciples avec les 5 pains et les poissons. Aussitôt après, Matthieu 14, verset 21, aussitôt après donc, il obligea les disciples à monter sur, il obligea les disciples à monter sur la montagne, dans la barque et à passer, dit-il. À passer, je suis en train de chercher le. Oui. À passer à l'autre côté du. L'autre côté de la, du bord. Et à passer avant. Laisse-moi prendre d'abord le verset exact. Donc, il passa avant eux, de l'autre côté. Quand il eut renvoyé, il se mit à l'écart, verset 23, et continua le soir étant venu, il était seul, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a prié afin qu'il puisse vraiment être inspiré dans cela, verset 23. Et lorsque, déjà au milieu de la mer, était battu donc par des flots, et quand le vent était contraire, alors que les gens avaient peur, le Christ a prié et ensuite il a marché sur les eaux et ainsi de suite. Autrement dit, je cherche ici l'idée générale, mais je voudrais que vous puissiez lire le tout. Vous verrez que les disciples étaient étonnés de voir le Christ marcher sur les eaux. Et le Christ est arrivé à cela d'abord en priant Dieu. Dans votre vie, donnez toujours priorité à la prière avant de prendre une grande décision. Alors, continuons. Examen numéro 6. Je répète, je prends seulement une partie seulement de toutes les conditions que je vous pose. En ce qui concerne l'examen numéro 6, lorsque vous vous examinez vous-même, honnêtement parlant, vous demandez-vous combien de fois vous avez pris une décision ou fait quelque chose à cause de la vanité. Autrement dit, quelle part joue la vanité dans votre vie? Vous voulez être respecté pourquoi? À cause de la vanité. Vous voulez qu'on vous aime pourquoi? À cause de la vanité. Vous voulez être dominé. Vous voulez dominer. Pourquoi? À cause de la vanité. Souvent, vous êtes le centre de quelque chose. Lors d'une conversation, cherchez-vous à être le centre de la conversation. Si c'est le cas, il y a beaucoup de chances que non seulement vous agissez en tant que victime de votre vanité, mais aussi par égoïsme. Et vous n'arriverez pas au but, au résultat. La vanité, mes frères et mes sœurs, joue un rôle important dans votre vie. À nous tous, à vous, à moi, c'est la même chose. Nous nous laissons inspirer par notre caractère charnel. On veut être aimé plutôt qu'aimé. On veut être respecté plutôt que respecté. Tout ça, c'est la vanité. Si vous vous mettez en pleine humilité, vous verrez que votre vie changera. Soyez humble. La vanité et l'humilité sont deux opposés. La vanité vous ruine. L'humilité vous mène à la gloire. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples de vanité et où cela vous conduit. Par exemple, prenez Actes chapitre 12. Un exemple qui est arrivé, qui est frappant, mais ça nous donne une idée de ce que c'est que la vanité. Peut-être vous n'êtes pas un roi, peut-être vous n'êtes pas un grand homme, mais quelle que soit votre situation, mettez-vous dans cet exemple-là, vous pouvez voir comment vous pouvez changer votre vie. Parce que dans des petites choses ou dans des grandes, vous examinez vous-même, vous verrez que ce que vous dites, c'est par vanité. Les actes, ce que vous faites, c'est par vanité. C'est parce que vous voulez que les autres vous glorifient, entre guillemets. Alors que le Christ a dit que les gens voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Actes chapitre 12. Nous avons l'exemple d'Hérode. C'est le troisième Hérode ici. Hérode, c'était une dynastie, comme vous savez. Actes chapitre 12, verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens, etc. Ensuite, un jour, il faisait un grand discours, verset 21, un jour de fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux. D'ailleurs, ça commence déjà. Et on fait un discours, bon, il faut qu'il se présente bien, il n'y a pas de problème. Mais il se met dans ce 31. Ensuite, il va faire un discours et il, assis sur son trône, il harangua publiquement. Autrement dit, il s'est vraiment donné la peine pour impressionner les gens. Vanité. Il était tellement impressionnant que le peuple criait, verset 25, c'est un dieu et non pas un homme. Hein? Voilà. Un homme qui cherche à impressionner les gens à se passer même à leur avis, comme Dieu. Et le peuple s'écria, voix d'un homme, mais non pas voix d'un Dieu, n'est pas un homme. Si c'est ça que vous cherchez, si c'est ça que vous voulez faire afin que les gens vous respectent, ou bien vous aiment, le résultat, ce sera catastrophe. Au même instant, verset 23, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il expira rongé des vers. Vanité, voilà le résultat. Rongé des vers. C'est un sujet immense, la vanité. J'ai fait plusieurs sermons, j'en ferai encore. Cette vanité qui nous contrôle. Nous ne nous rendons pas compte. Nous voulons, je répète, être aimé plutôt que aimé. Nous voulons être servi plutôt que servir. Tout ça, c'est la vanité. Nous voulons même être religieux pour impressionner les gens. Ce faisant, nous sommes hypocrites en même temps. Regardez ce qui est écrit dans Proverbes chapitre 15. Un verset que je cite souvent, mais c'est le moment de le citer maintenant, parce que Dieu nous dit ce que c'est que la vanité et où nous mène la vanité. Proverbes chapitre 15, verset 33. La crainte de l'Éternel, c'est-à-dire le respect des commandements de Dieu, enseigne la sagesse. Ça, c'est le but de la vie. Nous apprenons la sagesse qui nous vient de Dieu par la crainte de Dieu, c'est-à-dire par notre obéissance à Dieu, nous reconnaissons, nous acceptons, nous connaissons comment vraiment arriver à la sagesse. Ensuite, l'humilité précède la gloire. C'est un verset fantastique. Si vous êtes humble aujourd'hui, vous serez un jour glorifié dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la gloire. Donc, pour arriver à cette gloire, aujourd'hui, vous devez vous débarrasser de votre vanité. L'humilité précède la gloire. Proverbes, chapitre 27. Non, 22. Proverbes, chapitre 22. Encore un autre verset magnifique qui nous dit vraiment la valeur de l'humilité. Proverbes, chapitre 22. Verset 4. Proverbes 24. Le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la même phrase, mais autrement dit, c'est la richesse, la gloire et la vie. Regardez-moi la récompense. Donc, humilité vous mène à la gloire, vous mène à la richesse, vous mène à la vie éternelle. Voilà le prix. Mes frères et mes sœurs, lorsque vous vous examinez vous-même chaque jour, honnêtement, demandez-vous sincèrement, pourquoi ai-je fait ce que j'ai fait? Pourquoi ai-je pris les décisions que j'ai prises? Comment est-ce que je me suis comporté à l'égard de quelqu'un? Était-ce par vanité? Était-ce pour me glorifier? Ou était-ce vraiment en toute humilité? Ce sont des choses indispensables dans votre vie. Sans ça, vous ne pouvez pas arriver au but pour lequel vous avez été créé. Nous sommes créés, je le répète, et j'ai expliqué ça dans le premier sermon, nous avons été créés pour être un jour membres de la famille divine, pour être un jour des êtres éternels, pour vivre un jour en tant que membre de la famille divine éternellement. Ça, c'est le but, ça, c'est la gloire, ça, c'est la richesse, ça, c'est la vie éternelle. Mais pour y arriver, nous devons aujourd'hui nous humilier. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, respecter notre prochain et le mettre avant nous, avant nos besoins à nous. Là encore, je n'en finirai pas, mais il y a tellement de choses ici à comprendre, à savoir, à respecter. Soyez sûr que dans tout ce que vous faites, dans vos priorités à nouveau, que vous mettez d'abord Dieu. Ce que Dieu aurait fait à votre place, comment le Christ aurait-il réagi? Le Christ n'a pas cherché sa gloire lorsqu'il était sur cette terre. Le Christ ne s'est pas glorifié. Le Christ ne s'est jamais conduit par vanité. Au contraire, il a tourné l'autre joue, il a même donné sa vie. Alors que les gens le respectaient faussement, il a donné sa vie afin que vos péchés et les miens soient pardonnés. Dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens 4, nous pouvons voir un autre exemple et des recommandations en ce qui concerne l'humilité. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples dans la Bible. Il y a beaucoup de versets qui nous montrent comment nous approcher de Dieu. Éphésiens 4, verset 1. On parle d'humilité. Vous savez, en fait, dans Philippiens aussi, Paul nous a dit, soyez comme le Christ. Soyez humbles comme le Christ. Je paraphrase. Ici, il répète la même chose d'une façon un peu différente, mais qui nous donne quand même la même idée, qui nous aide à comprendre ce que c'est que vraiment l'humilité. Éphésiens 4, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier, parce qu'à cette époque-là, Paul était prisonnier, à marcher d'une manière digne de la vocation. Vocation, c'est votre appel qui vous a été adressé. En toute humilité. Vous marchez digne de la vocation pour votre but en toute humilité et douceur, avec patience. Galva, ce ne sont pas des mots simples. Il faut mettre en pratique ces mots. Humilité, douceur, patience. Vous supportant les uns les autres avec amour. Voilà comment on arrive au but avec l'humilité. Avec amour, avec charité, de l'esprit par le lien de la paix. C'est beau ça. Vous ne pouvez pas vraiment chercher la paix si vous vous glorifiez vous-même, si vous cherchez vos propres besoins d'abord, si vous vous vantez. Ensuite, le même verset, mais la fin de ce verset, chapitre toujours 1, verset 4, regardez ce qui est marqué. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi une seule raison, une seule foi, une seule sagesse, une seule espérance. Autrement dit, Paul ici résume le tout. Et là, ça m'amène maintenant à notre septième condition de notre examen. Nous avons vu, en tant que sixième, vraiment ne pas nous glorifier, mais nous humilier. Mais tout ça, c'est pourquoi? Pour arriver au but. Et ce but ne peut s'accomplir que si nous avons tous unité. Alors, Je vous pose la question. Lorsque vous vous examinez vous-même, pouvez-vous dire qu'aujourd'hui, j'ai fait tout ce que j'ai fait pour créer l'unité dans ma famille, dans mes rapports avec les autres, dans mes relations avec tout le monde, même si des gens qui ne vous respectent pas. Avez-vous cherché l'unité? Et surtout, avez-vous cherché l'unité dans l'Église, l'unité dans la famille? L'une des façons de chercher l'unité, c'est de procurer la paix. Je n'ai pas dit de chercher la paix. Tout le monde veut être riche. Tout le monde veut avoir la paix. Mais le fait est de chercher à procurer la richesse. Chercher à procurer la paix. Chercher à procurer l'amour. Ce faisant, vous créez, vous contribuez à l'unité. Le Christ a dit dans Matthieu chapitre 5, dans son sermon sur la montagne, il n'a pas dit chercher la paix. Il y a des gens qui ont dit, le Christ a dit que nous devons chercher la paix. Non, il n'a pas dit de chercher la paix. Ça vous impressionne? Non? Parce que voyez-vous, là encore, l'idée est juste, mais ce n'est pas exactement ça. Le Christ a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix. » Vous devez procurer la paix. Si vous procurez la paix, évidemment, vous la cherchez en même temps. Vous devez faire de sorte que lorsque vous êtes avec les gens, que vous ne soyez pas, vous, sujet de dispute. Lorsqu'il y a une dispute, vous chercherez à gagner cause. Ou bien vous chercherez à avoir raison. Apprenez à tourner l'autre joue. Apprenez à dire « j'ai tort ». Ce faisant, vous procurez la paix. Soyez un instrument de paix, comme l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens. Et ce faisant, vous procurez la paix. Sans la paix, il n'y a pas d'unité. Un homme et une femme ne peuvent pas vivre ensemble et avoir une famille unie, heureuse, s'il n'y a pas de paix. Les enfants et les parents ne peuvent pas vivre ensemble et être heureux s'ils ne vivent pas dans la paix. Donc, vous, dans chaque chose, lorsque vous vous examinez vous-même, posez-vous la question. Aujourd'hui, dans ma conversation, dans mon comportement, ai-je vraiment procuré la paix? Ou ai-je cherché la paix? Oh, tout le monde cherche la paix. Mais êtes-vous vraiment un instrument qui procure la paix? Ce n'est pas facile. Le Christ est venu, a été accusé, a été blâmé, a été persécuté. Et là, il est venu pour nous montrer ce que c'est que l'unité. Dans Jean chapitre 17, je répète, ce sont des sujets énormes, il faut presque analyser et prendre chaque sujet en tant que sujet d'un sermon. Dans Jean chapitre 17, le Christ nous montre le but final de l'existence humaine sur cette terre. Et d'une façon magnifique. Ici, vous avez dans Jean 17, l'évangile selon Jean, la dernière prière du Christ. La prière avec ses disciples. Quelle a été la prière du Christ avec ses disciples ici? Quel a été le but? Unité. Il cherchait l'unité, il disait comment parvenir à l'unité. Par exemple, il dit, Jean 17, et je suis en train de voir où est-ce que je peux prendre le verset qui serait facile à grouper. Ok, 20. Verset 20. Jean 17, 20. Verset 20. Ce n'est pas pour eux, dit-il, seulement que je prie. Autrement dit, il priait pour les disciples, pour les apôtres à l'époque. Mais encore, dit-il, pour ceux qui croiront en moi. Ça inclut vous et moi. C'est le futur. Et pourquoi priait-il? Afin que tous, vous, moi, eux, soient un. Voilà l'unité. Tous soient un. Comme je suis en toi, et comme tu es en moi, je paraphrase, afin que eux aussi, dit-il, soient un en nous. Voilà l'unité. C'est cette unité, mes frères et mes sœurs, à laquelle nous allons parvenir un jour. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Nous sommes membres de l'Église, nous faisons ce que Dieu nous dit, autant que possible. Mais ce n'est pas encore l'unité totale. Ce n'est pas l'unité où nous sommes un avec Christ, 100%. Nous sommes un avec l'Esprit de Dieu, 100%. Un avec Dieu, le Père, 100%. Mais le jour viendra. Et le Christ a prié justement pour ça. Il dit, je prie pour cela. C'est fantastique. Comment le Christ et Dieu le Père se comportaient-ils l'un avec l'autre? Jean chapitre 5. Regardez le rapport parfait entre le Christ et le Père. Et c'est ce que nous devons commencer à faire dès maintenant afin de pouvoir arriver à cette unité totale en fin de compte. Jean chapitre 5, verset 19. Jean 5, 19. Jésus reprit la parole et leur dit, en effet, dit-il, en vérité, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit le faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Voilà l'unité, l'unité totale. C'est cette unité à laquelle nous arriverons un jour, si nous faisons notre part. Verset 30, toujours Jean chapitre 5, verset 30. C'est la même idée qui continue. Il dit, selon, dit-il, je ne juge pas, dit-il, moi-même. Mais, dit-il, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà l'unité totale. Je connais quelqu'un que j'aime bien. Il parle toujours d'amour. C'est bon. Mais on ne peut pas avoir d'amour à moins d'avoir cette unité. Unité d'esprit, unité de désir, unité dans le but. Si nous sommes membres de l'Église de Dieu, nous devons avoir tous le même but, avoir tous le même ordre de priorité. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Voilà votre unité. L'Église ne peut pas vraiment exister s'il n'y a pas d'unité. S'il n'y a pas d'unité, il y a disruption. Il y a des gars, il y a des visions. C'est étrange car, à l'époque de l'apôtre Paul, juste après la mort et la résurrection du Christ, vous savez ce qui s'est passé? D'abord, dans Actes chapitre 4, nous voyons l'attitude des membres de l'Église. Ils étaient tous groupés. Ils avaient peur, certes, d'être persécutés, mais ils étaient tous groupés, ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Actes chapitre 4. Verset 32, vous n'avez qu'à lire, je ne vais pas lire le tout, mais ici, ils vivaient en commun. Verset 32, Actes, chapitre 4, ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Et il n'y avait parmi eux aucun indigent. Verset 34. Donc, ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Ainsi de suite. Donc, je saute parce que je sais qu'il faut que je commence à résumer maintenant le tout. Mais il y avait cette unité dans leurs besoins. Qu'est-ce qui se passe? Après quelques années seulement, la mort et la résurrection de Christ, après quelques années seulement, voilà qu'il n'y a plus d'unité. Ils ont perdu l'unité. 1 Corinthiens chapitre 1. Le même groupe, des gens qui vivaient ensemble, qui partageaient tout ce qu'ils avaient. Il n'y avait pas d'indigents, il n'y avait pas de pauvres. Et cette unité s'est tout d'un coup s'est dissipée à cause de Satan. C'est temps qu'il a fait. Et l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, « Je vous exhorte, frères, dit-il, par le nom du Christ, à avoir un même langage. » Voilà l'unité. « À ne point avoir de division parmi vous. » Vous ne pouvez pas avoir de division et en même temps avoir une unité. Mais dit-il, avoir un seul esprit dans un seul sentiment. Aujourd'hui, regardez autour de vous, mes frères et mes sœurs. Combien de religions existent-ils de par le monde? Combien de divisions existent-ils même au sein du christianisme? Des gens qui se réclament être chrétiens, église de Dieu. Il n'y a pas d'unité. Pourquoi? Parce que nous avons perdu l'amour. L'amour de Dieu qui consiste à garder ses commandements. Voilà la base. Si vous observez les commandements de Dieu, vous avez l'amour. Si vous avez l'amour, vous procurez la paix. Si vous procurez la paix, vous créez l'unité. Examinez-vous vous-même. Est-ce le cas? Est-ce vraiment le cas? Procurez-vous la paix afin d'établir l'unité dans votre famille, autour de vous, dans la société, au sein de l'Église? Voilà des examens de soi. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Vous savez, la religion chrétienne est vraiment belle. C'est bon, ce n'est pas toujours facile. Mais vous donne la certitude que vous arrivez au but et que vous êtes parfaitement, vous avez l'assurance que vous arrivez au but en faisant ce que Dieu vous dit. Ça ne sera pas facile parce que ce sera souvent contre votre propre volonté, je le sais. Mais si vous avez cette certitude que c'est la voie qui vous mène à l'unité totale, alors là, marchez-y sans jamais craindre quoi que ce soit. Romains chapitre 16, verset 19. Romains chapitre 16, verset 19. Il est pour vous, dit-il, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis, dit-il, c'est Paul qui écrit à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et pur, car ce qui concerne, dit ce qui concerne le mal, autrement dit, je suis en train de lire vite, il ne faut pas que je fasse, dit le Dieu de paix, voilà, verset 20, le Dieu de paix écrasera bientôt, dit-il, Satan sous ses pieds. Voilà ce que votre unité en Christ va causer. Ensuite, il dit que la grâce de Dieu, etc., vous unissent. Alors, mes frères et messieurs, où en sommes-nous? En tant que membres de l'Église, nous devons chercher à créer l'unité. Psaume chapitre 133, qu'il est beau pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133, je pense que nous connaissons par cœur. En fin de compte, pour terminer ce sujet, je répète, un sujet qui nous donne l'occasion de nous examiner vous-même. Chaque jour, nous devons nous examiner nous-mêmes, franchement parlant, et voir ces 7 points que j'ai montrés dans des sermons. Si vraiment nous sommes chrétiens, si nous croissons dans la bonne voie, si nous croissons dans la vérité, à quoi bon de dire que je suis chrétien si vous ne travaillez pas dans cette croissance qui vous mène au but final, l'unité totale en Dieu? Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1. Terminons par ce verset. Un verset magnifique qui nous donne l'espoir de vivre. Philippiens chapitre 1, verset 27. Seulement, dit-il, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Voilà ce que nous disons, nous parlons, l'unité. Et il dit, j'entendis, dit-il, que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Voilà votre unité. Verset 20. Dieu a fait, dit-il, grâce par le rapport à Christ, non seulement dit-il de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, soutenant le même combat. Autrement dit, dans cet examen de soi, vous allez constater que ce n'est pas toujours facile. Mais c'est la seule voie, je répète, pour arriver au but. Alors, mes frères et mes sœurs, vraiment, cherchez à vous examiner chaque jour vous-même pour voir si vous êtes dans la foi.